Acte 4, où Gödel achève les espoirs d'un système axiomatique complet. Le soleil achevait sa course et se présentait déjà au bord de l'horizon, prêt à descendre de l'autre côté pour éclairer des contrées lointaines. X, déambulant dans les rues paisibles du centre-ville historique, cherchait à mettre de l'ordre dans ses pensées. La science de la logique, qui lui permettait de définir des vérités autant que de systèmes axiomatiques possibles, l'avait troublé au plus haut point. Elle comprenait l'intérêt de ces nouvelles notions sur le plan de la rigueur scientifique, mais il lui semblait avoir perdu quelque chose d'immensément beau, abandonné en chemin l'espoir d'une forme absolue de la vérité. Elle repensait avec nostalgie à sa première rencontre avec Euclide et ses évidences. Comme un escalier se présentait à ses pieds, elle monta les marches du campanile, songeant déjà à la vue que celui-ci devait offrir. Sur la terrasse, au sommet, elle n'était pas seule. Une silhouette en contre-jour, tranchant sur le soleil, se dressait devant elle. Elle alla s'appuyer sur le rebord de la balustrade, à la droite de cette sombre figure, contemplant, noble, le coucher du soleil. C'était un homme, au visage sévère, habillé sobrement d'un complet gris, d'une cravate beige, d'une paire de petites lunettes rondes et les cheveux plaqués en arrière. Le disque éclatant du soleil disparut, puis l'inconnu prit la parole.
Je ne manque pas un coucher de soleil depuis 10 ans, et même après tout ce temps, je continue de ressentir autant de nostalgie. La course du soleil dans le ciel me rappelle l'évolution d'une science. Lorsque celle-ci voit le jour, elle vient combattre, d'abord par sa faible lueur, puis par sa lumière éclatante l'obscurité de l'ignorance. À son zénith, elle semble expliquer tant de choses qu'elle se suffit à elle-même. Imperturbable, belle, parfaite. Et puis, bien sûr, vient la lente descente vers l'horizon. Car la perfection d'une science n'est qu'une illusion, et un scientifique finit un jour par trouver la faille. Je porte sur mes épaules l'effondrement de l'espoir de toute une communauté. Et pourtant, je ne le regrette pas. Après tout, mes pères étaient dans l'erreur depuis plus d'un siècle, et j'ai contribué à leur faire entendre raison. Malheureusement, pour beaucoup, c'est la raison qu'ils ont perdue.
Excusez-moi de vous interrompre, monsieur, mais je suis curieuse de savoir la source de votre nostalgie. De quelle science voulez-vous parler ?
C'est à moi de m'excuser de mon impolitesse. Mon nom est Kurt Gödel.
Enchanté.
Logicien.
Logicien ? Encore un logicien ? J'ai rencontré un de vos collègues, Monsieur Russell, pas plus tard que cet après-midi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez découvert de si grave ?
Ce que j'ai découvert n'a de grave que l'immense espoir de centaines de mathématiciens que j'ai détruits. Voyez-vous, avec l'invention de la logique et cette indépendance entre la notion de vérité et le réel, la logique semblait apporter aux mathématiques une autosuffisance, une consistance propre. Bref, la science des mathématiques était devenue la plus grande des sciences grâce à la logique, si bien que certains de ses plus grands adeptes, tels Hibbert, affirmèrent qu'il était possible d'accéder à toutes les vérités. Autrement dit, étant donné une théorie, il suffirait d'engendrer la liste exhaustive de toutes les preuves valides en partant des axiomes pour accéder à toutes les vérités possibles engendrées par la théorie. En termes logiques, on dit alors que la théorie est complète dans le sens où tout ce qui est vrai est démontrable. Les logiciens avaient déjà démontré le caractère correct des théories logiques qui traduit le fait que tout ce qui est démontrable est vrai. La complétude est donc la propriété réciproque de la correction. Étant donné que le seul moyen pour un mathématicien d'atteindre une vérité est la démonstration, cela impliquerait qu'il n'existe pas de vérité inatteignable ou dénoncée dont la véracité demeure inconnue. Vous comprenez ?
Oui, je comprends. Mais cela voudrait dire que pour tout énoncé, il est possible de montrer soit qu'il est vrai, soit qu'il est faux.
Exactement. Vous comprenez alors la puissance d'une telle propriété et l'excitation des mathématiciens à l'idée que leur science soit sans faille. La donnée d'un système axiomatique définit sa propre notion de vérité, et celle-ci peut être totalement déterminée par la démonstration.
La démonstration. Et donc c'est là que vous entrez en jeu, j'imagine.
Vous êtes perspicace, mademoiselle. Dans ma 25e année, j'ai démontré mes deux théorèmes d'incomplétude. J'ai établi formellement que pour toute théorie assez complexe, comme la théorie des ensembles, par exemple, il existe des énoncés qui sont vrais, mais qui sont indémontrables.
Vrais et indémontrables ? Attendez, comment savez-vous qu'ils sont vrais si vous ne pouvez pas les démontrer ? Ça n'a pas de sens, votre histoire.
Les mathématiciens ont longtemps cru que vrai et démontrable étaient la même chose. Ce n'est pas le cas. Par exemple, vrai commute avec la négation, non à et vrai est équivalent à et non vrai.
D'accord.
Mais ce n'est pas le cas de démontrable. Non à et démontrable est différent de à n'est pas démontrable. Puisque dans un système contradictoire, on peut démontrer à la fois une proposition et sa négation. J'ai montré qu'au sein de tout système axiomatique suffisamment complexe pour pouvoir faire de l'arithmétique élémentaire, ce qui n'est pas beaucoup demandé, il existe des énoncés vrais et indémontrables.
Vous voulez dire qu'une telle théorie est incomplète, dans le sens où le processus logique de démonstration est insuffisant pour déterminer toutes les vérités qu'elle va engendrer?
C'est tout à fait ça. Vous comprenez maintenant quand je dis que j'ai détruit les espoirs de nombre de mes pairs. La science de la démonstration que sont les mathématiques ne peut révéler toutes les vérités. Il y en a d'inatteignables. Tel horizon, vous pouvez passer votre vie à marcher vers elle en améliorant vos capacités de démonstration. Vous ne l'attendrez jamais. Maintenant, laissez-moi vous donner l'intuition de la preuve de mes théorèmes. Je désigne par théorie assez complexe une théorie qui est capable de décrire l'arithmétique usuelle utilisée en mathématiques. Par exemple, l'axiomatique de Peano. Je suppose de plus que la théorie est consistante, c'est-à-dire qu'il est impossible de démontrer l'absurde dans le système axiomatique donné. J'ai basé ma preuve sur un paradoxe connu depuis longtemps.
Lequel ?
Cette phrase est fausse. En effet, soit elle est vraie, donc elle est fausse, soit elle est fausse, donc elle est vraie. Dans les deux cas, il y a une contradiction, d'où le paradoxe.
Mais je connais ce paradoxe. Russell m'en a déjà parlé.
Ah oui, c'est le même, à peu de choses près. Maintenant, considérez l'énoncé suivant. Cet énoncé n'est pas démontrable.
Oui.
Si cet énoncé est faux, alors il est démontrable. Or, comme on sait que la théorie est correcte, cet énoncé est donc vrai, contradiction.
Contradiction, oui.
On a montré par l'absurde que cet énoncé est vrai. Cela impose que cet énoncé est indémontrable. Autrement dit, on ne peut démontrer qu'il est vrai sans faire appel à lui, sans supposer qu'il est vrai. Bien sûr, la preuve que je viens de vous donner est informelle et ne respecte pas les règles de rigueur et de formalisme de la logique, mais c'est bien l'intuition que se cache derrière mes théorèmes d'incomplétude. En fait, il y a un autre moyen de formuler mes théorèmes, en gardant à l'esprit qu'en logique, un axiome est une propriété qui est le point de départ d'un raisonnement.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qui est autosuffisant. Je vous propose donc cette reformulation. Dans toute théorie assez complexe, il existe des énoncés qui relèvent d'un caractère axiomatique, c'est-à-dire qui sont vrais et qui nécessitent qu'on les suppose pour pouvoir les démontrer. Avec cette nouvelle formulation, c'est la notion d'axiome en elle-même qui est ébranlée. En logique, axiome rime avec liberté de définition d'une nouvelle vérité. Mais en fait, un choix d'axiome nous impose l'existence d'énoncés qui relèvent d'un caractère axiomatique.
Je vois. Vos théorèmes ont vraiment révolutionné la conception de la logique et des mathématiques, alors. Mais quand bien même ils détruisent l'espoir de Hilbert, ils ne remettent pas tout en cause. Après tout, les mathématiques continuent d'exister et on continue à démontrer des théorèmes. La vie continue, comme on dit.
Vous avez raison. Mes théorèmes n'ont fort heureusement pas mis fin à la recherche mathématique. Mais ils sont problématiques à bien des égards. Après que la logique eut d'abord cru séparer la notion de vérité de l'évidence par la définition de système axiomatique, les mathématiciens se sont mis d'accord sur la théorie qu'ils utilisent pour le développement de leur science.
Laquelle ?
Historiquement, c'est la théorie des ensembles qui a remporté l'adhésion de l'écrasante majorité des mathématiciens. Maintenant, imaginez qu'un mathématicien découvre un énoncé dont il aurait besoin pour une de ses démonstrations.
D'accord.
Imaginez ensuite que quelqu'un démontre que le dit énoncé est indémontrable. On est alors confronté à un vrai dilemme. Soit on ajoute l'énoncé à notre système axiomatique car il nous paraît évident qu'il est vrai, soit on ajoute la négation de l'énoncé à notre théorie car il nous paraît évident qu'il est faux, soit on l'ignore. Et vous voyez là le problème fondamental que posent mes théorèmes. Le retour de la notion de l'évidence en mathématiques, dont on pensait s'être débarrassé à l'aide de l'édification de la logique.
Et ce cas de figure s'est-il déjà présenté ?
Et là, oui. Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'axiome du choix.
Qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit d'une proposition formalisé par Ernst Samielo en 1904, qui permet de résoudre bien des problèmes qui nécessitent de passer d'énoncés sur des espaces de dimension finie à des espaces de dimension infinie. En 1938, j'ai démontré que, si on suppose la théorie des ensembles consistante, alors la théorie dans laquelle on rajoute l'axiome du choix est aussi consistante. Mais en 1963, Paul Cohen a montré que la théorie dans laquelle on rajoute la négation de l'axiome du choix est, elle, aussi consistante.
C'est-à-dire ?
Autrement dit, qu'on l'accepte ou qu'on le rejette. Cela ne change pas la consistance de la théorie des ensembles. Ces deux choix sont autant légitimes du point de vue logique. En fait, cela montre exactement que l'axiome du choix est indémontrable dans la théorie des ensembles. C'est pour cela qu'on le désigne par le terme axiome.
Ok.
Finalement, vous voyez que mes théorèmes d'incomplétude justifient d'écrire au pluriel les mathématiques. Il y a les résultats mathématiques démontrés à l'aide de l'axiome du choix, dont la vérité n'est pas contestée, mais dont la théorie sur laquelle il s'appuie est contestée et qui ne sont pas acceptées par toute une partie des mathématiciens. Pauvre Hilbert.
Épilogue. X était allongé sur le sable, encore chaud de la plage, les yeux ouverts, contemplant le ciel étoilé. La marée avait effacé les théorèmes écrits le matin même.
Bon, finalement, que sais-je ? Suis-je à ce point désarçonné par tous ces revirements successifs ? Ces renversements de table qui n'ont eu de cesse de remettre en cause ce qui se voulait être l'ultime fondement de ma connaissance. Gödel n'a-t-il pas achevé, en un point d'orgue insondable, la possibilité d'une construction complète de la connaissance ? Peut-être. Mais la recherche de la connaissance a-t-elle nécessairement besoin d'axiomes ?
La lune avait pris la place du soleil. Son disque éclatant se reflétait à la surface de la mer. Partout, le doute était permis. La vérité serait toujours fuyante, dure à conquérir autant qu'exaltante, mais l'imperfection inévitable n'abolirait pas toute entreprise humaine. La lune restant, quoi qu'il en soit, à portée d'homme.